السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، on a vu la semaine dernière la première partie de l'introduction du livre Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. Et on a vu dans cette première partie que le Cheikh rahimahullah nous a cité qu'il était obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses qui sont Al-Ilm, والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. La science, sa mise en pratique, y inviter les gens, et la patience face aux persécutions dues à cela. On a vu que ce que le Shir, rahimahullah, voulait désigner par l'ilm, c'était l'ilm shar'i, la science légiférée. En effet, le Shir, rahimahullah, ne vise pas par là les sciences mondaines ou les sciences modernes. Et la preuve, c'est que le Shir, rahimahullah, a défini la science comme étant la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Et dans sa parole avec les preuves, on avait vu que cela signifiait par les versets du Coran et les hadiths de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non par les paroles d'un tel ou d'un tel, ni par le raisonnement ou la logique ou autre. Ensuite, la deuxième chose qu'il a citée, qui est obligatoire pour nous, c'est la mise en pratique, c'est-à-dire la mise en pratique de cette science. Car il ne suffit pas à l'homme d'apprendre sans mettre en pratique. Mais il est indispensable qu'il mette en pratique la science qu'il a apprise. Car la science sans œuvre sera en réalité une preuve contre toi. La science sans œuvre ne sera qu'une preuve contre toi. Et ta science ne sera profitable pour toi que si tu la mets en pratique. Elle ne sera profitable pour toi que si tu la mets en pratique. Tandis que si tu apprends la science et que tu ne la mets pas en pratique, alors celui qui fait cela fera partie de ceux qui ont couru la colère d'Allah. Al-Maghdoubi alayhim. Et il est connu, comme cela est rapporté dans un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que parmi les premières personnes qui seront jetées dans le feu de l'enfer, il y aura un savant qui ne mettait pas en pratique la science qu'il avait apprise. Ensuite, la troisième chose que le Shir rahimahullah avait citée, c'est le fait d'inviter les gens à cette science et à sa mise en pratique. Et on avait vu que cela concernait chaque musulman. Chacun selon sa science et selon ses capacités. Et ce afin que ta science ne soit pas profitable seulement pour toi, mais qu'elle soit profitable pour toi ainsi que pour autre que toi. Et la quatrième chose que le Shir rahimahullah avait citée, c'est la patience. La patience face aux persécutions. Pourquoi? Parce que celui qui appelle au bien, qui commande le bien, qui interdit le mal, il sera inévitablement exposé aux préjudices et aux nuisances. Parce que la majorité des gens ne veulent pas le bien, mais ils veulent suivre leurs désirs, suivre leurs passions, accomplir des choses interdites. De ce fait, lorsque le prêcheur, le prédicateur, le commandeur du bien va s'interposer entre eux, leurs passions et leurs désirs, ils vont alors essayer de lui causer du tort. Il va donc subir des préjudices selon sa foi et selon sa da'wa, selon son appel. Et qu'est-ce qu'il doit faire face à cela? Il se doit de patienter. Il se doit de patienter à partir du moment où il est sur la vérité. Tant qu'il est sur la vérité, il patiente. Il patiente et il se rappelle qu'il est fait sabilillah. Il est sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'il subit comme préjudice et comme nuisance, cela est inscrit dans la balance de ses bonnes actions. Donc, tu ne dois pas délaisser l'enseignement sous prétexte que tu subis tel ou tel préjudice. Tu ne dois pas délaisser la prédication sous prétexte que tu as subi telle ou telle nuisance. Tu ne dois pas délaisser une place d'imam, une place de sermonneur, sous prétexte que les gens te nuisent ou que les gens s'opposent à toi. Tu ne dois pas délaisser le commandement du bien et l'interdiction du mal sous prétexte que tu vas subir des nuisances. Mais tu te dois de patienter. Tu te dois de patienter. Car si tu ne patientes pas et que tu délaisses cela, alors tu ne seras pas compté parmi les patients. Tu dois donc patienter et espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shir, rahimahullah, comme on l'a vu, il n'aborde pas un sujet sans qu'elle soit accompagnée d'une preuve. Il avait apporté la preuve de ces quatre choses qui n'est autre que la surat al-asr, la surat, le temps, dans laquelle Allah azawajal a juré que l'ensemble des gens, tous les hommes, étaient en perdition, sauf ceux répondant à quatre caractéristiques. Et ces quatre caractéristiques ne sont autres que les quatre choses que le Cheikh, rahimahullah, nous a dit qu'il était obligatoire pour nous d'apprendre. La première caractéristique, Allah azawajal dit « Illa alladhina amanu » sauf ceux qui ont cru. Sauf ceux qui ont cru. Al-iman, la foi, cette foi qui ne peut avoir lieu sans la science. Il est impossible d'avoir la foi sans avoir la science. Ensuite, il dit « Wa amilu salihat » accomplissent les bonnes œuvres, la mise en pratique de cette science. « Watawasaw bil haqq » s'enjoignent mutuellement la vérité. Ils invitent les gens à cette science et à sa mise en pratique. « Watawasaw bil sabr » et s'enjoignent mutuellement la patience. Ainsi, on retrouve les quatre choses que le Cheikh rahimahullah, il a mentionnées. Et ces quatre caractéristiques, Ibn al-Qayyim rahimahullah, les a mentionnées comme étant les quatre degrés de jihad al-nafs, du combat contre son âme. Tu dois en premier lieu combattre ton âme pour apprendre la science, puis la combattre pour mettre en pratique cette science, puis combattre ton âme pour appeler les gens à cette science, à sa mise en pratique, puis enfin combattre ton âme pour patienter face aux persécutions que tu vas subir sur ce chemin. Ainsi, quiconque veut le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, et quiconque souhaite la réussite, il se doit alors de combattre son âme pour apprendre la science, la mettre en pratique, y inviter les gens et patienter. Wa nas'alallah subhanahu wa ta'ala an yu'inana ala dhalik. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela. Aujourd'hui, bi'inillahi ta'ala, on va voir la deuxième partie de l'introduction, dans laquelle le Cheikh rahimahullah a mentionné trois choses qu'il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane d'apprendre. Il dit rahimahullah, i'lam رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. الشيخ ابن باز رحمه الله dit en commentaire de cela: هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه. Il dit, rahimahullah, ces trois questions font partie des questions les plus importantes liées à la science du tawhid, à l'unicité, ainsi qu'aux droits liés au tawhid. Le shir, rahimahullah, comme on l'a vu, il invoque pour le lecteur, pour celui qui écoute le livre, en disant, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Et ceci est le comportement qu'il convient à l'enseignant d'adopter avec ses élèves. Il se doit d'être doux et de faire preuve de compassion et de miséricorde avec eux. Il ne doit pas faire preuve de dureté avec eux. Parce que cette science, al-ilm, est basée sur la miséricorde mutuelle entre l'enseignant et l'élève. Entre l'enseignant et l'élève. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah, il dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane, ou pour tout musulman et toute musulmane. » Le Cheikh, rahimahullah, ici, il a précisé les hommes et les femmes, les musulmans et les musulmanes, et ce, pour indiquer qu'il n'y a pas de différence. entre les hommes et les femmes quant à l'apprentissage et la mise en pratique de ces questions qu'il va aborder. Et ceci est la base dans toute question religieuse. La base est qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, sauf pour ce qui a été spécifié par une preuve. S'il y a une preuve qui est rapportée, spécifiant qu'une obligation ou une interdiction est spécifique pour les hommes ou pour les femmes, alors dans ce cas-là, cela est spécifié pour l'un d'entre eux. Mais si cela est général et qu'aucune preuve n'indique cette spécification, alors dans ce cas-là, l'ordre ou l'interdiction reste général. À titre d'exemple, on peut citer la prière en commun qui n'est obligatoire que pour les hommes et non pas pour les femmes. On peut citer également l'interdiction de porter la soie ou de porter l'or qui est spécifique aux hommes et non pas pour les femmes, etc. Ensuite, le Cheikh rahimahullah, il dit donc, il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. Comment doit être cet apprentissage? Cheikh Salah al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, donne ici un bénéfice très important. Il dit, hafidahullah, at-ta'allum huna ma'nahu at-talaqi 'anil 'ulama wal-hifd wal-fahm wal-idrak. Cheikh al-Fawzan dit l'apprentissage ici. Le sens de l'apprentissage, c'est le fait d'étudier auprès des savants, que tu mémorises ce que tu apprends auprès des savants, que tu le comprennes et le saisisses. Hada huwa at-ta'allum. Ceci est l'apprentissage. Ensuite, il dit: Laysa al-murad mujarrad qira'ati aw mutala'a hurra kama yusammunaha. Il dit ce qui est voulu, ce n'est pas la lecture ou la consultation des livres, la lecture libre, comme il la nomme. Hada laysa ta'alluman. Cheikh al-Fawzan dit ceci n'est pas de l'apprentissage. Innama at-ta'allum huwa at-talaqqi 'an ahli al-'ilmi ma'a hifdh dhalika wa fahmihi wa idrakihi tamaman. Il dit l'apprentissage, c'est que tu étudies auprès des gens de science, que tu mémorises cela, que tu le comprennes et le saisisses complètement. Hada huwa at-ta'allum as-sahih. Ceci est la méthode d'apprentissage correcte. Amma mujarrad al-qira'a fa innaha la takfi fi at-ta'allum. Il dit quant au fait de seulement lire, ceci n'est pas suffisant dans l'apprentissage. Wa in kanat matlouba, il dit même si cela est demandé. Il est demandé à l'étudiant de lire et de consulter les livres. Wa fiha fa'ida, et cela a un intérêt. Lakinnaha la takfi wa la yakfi al-iqtisar 'alayha. Il dit mais cela n'est pas suffisant et il ne suffit pas de se contenter de cela, de se contenter de lire et consulter les livres. Ensuite, il dit hafidhahullah wa la yajuz at-talmud 'ala al-kutubi kama huwa al-waqi' fi hadha al-waqt. Il dit il n'est pas permis d'être le disciple des livres comme cela est la situation actuelle. لأن التتلمذ على الكتب خطير جدا يحصل منه مفاسد وتعالم أضر من الجهل. Il dit car le fait d'être le disciple des livres est une chose très risquée et cela comporte beaucoup de méfaits et cela comporte également du ta'alum, c'est-à-dire que la personne qui lit dans les livres va croire qu'elle a obtenu de la science alors que ce n'est pas le cas. Elle va croire qu'elle est savante ou autre alors que ce n'est pas le cas. Et ceci, Cheikh al-Fawzan, il dit, c'est encore plus nuisible que l'ignorance. Et ceci est plus nuisible que l'ignorance. Pourquoi ? لِأَنَّ الْجَاهِلْ يَعْرِفُ أَنَّهُ جَاهِلْ. Car l'ignorant, il sait qu'il est ignorant. وَيَقِفُ عِنْدَ حَدِّهِ. Et il va s'arrêter où ? À ses connaissances. Il va s'arrêter à ses limites. ولكن المتعالم يرى أنه عالم فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويتكلم ويقول على الله بغير علم. Il dit quant au متعالم, celui qui fait le savant, il voit sa personne comme ayant atteint le stade de savant. Il voit qu'il a atteint le rang d'un savant. De ce fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite. Il va déclarer illicite ce qu'Allah a rendu licite. Il va parler et dire des choses sur Allah sans aucune science. Il va parler et dire des choses sur Allah sans aucune science. Et comme le dit Cheikh al-Fawzan, ceci est plus nuisible que l'ignorance. Voilà donc pour ce qui concerne la méthode par laquelle on se doit d'apprendre ces trois choses. Ceci doit être par le biais des gens de science, et non pas en s'isolant seul avec les livres, car cela comporte de nombreux méfaits. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il dit « Al-oula, anna Allah khalaqana, wa razaqana, wa lam yatrukna hamala, bal arsala ilayna rasoola, fa man ata'ahu dakhala al-jannah, wa man asahu dakhala al-nar, wa al-dalil qawluhu ta'ala, inna arsalna ilaykum rasoolan shahidan alaykum, kama arsalna ila fir'auna rasoola, fa'asa fir'auna rasool, fa'akhadnahu akhdan wabila. » L'auteur, rahimahullah, il cite donc la première de ces trois choses qu'il est obligatoire à tout musulman et toute musulmane d'apprendre et de mettre en pratique. Il dit la première, c'est qu'Allah nous a créés, qu'il nous a accordé notre subsistance et qu'il ne nous a pas laissés sans but. En effet, il nous a envoyé un messager. Quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. Concernant sa parole, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous a accordé notre subsistance et ne nous a pas laissé sans but. Ceci est prouvé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Ainsi que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer, c'est-à-dire libre d'agir ou sans avoir de compte à rendre? Ceci n'est pas le cas. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit en commentaire de ce passage « Allahu khalaqa al-khalq liya'budu falam yakhluqhum hamala wala suda wala abatha lakinnahu khalaqahum li amrin azim wa li hikmatin azima » Fiha sa'adatuhum wa fiha najatuhum. Il dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création afin qu'il l'adore. Il ne les a pas créés sans but ou vainement, mais il les a créés pour une chose importante et immense, et pour une sagesse immense, dans laquelle se trouve leur bonheur et leur réussite. Dans cette sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il se trouve notre bonheur et notre réussite. Et quelle est cette sagesse? Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit « وَهِيَا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا. » Cette sagesse immense pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et dans laquelle se trouve notre bonheur et notre succès, et pour qu'on l'adore, pour qu'on adore Allah seul sans associé. Comme Allah Azzawajal le dit dans sa parole, selon le sens rapproché, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » « وَهَذِي الْعِبَادَةِ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عْبُدُوا رَبَّكُمْ. » Et cette adoration, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné dans sa parole, « Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. » Et ici, le Shir, rahimahullah, il va citer plusieurs versets prouvant qu'il est obligatoire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans lui donner d'associé. Il dit ainsi que dans sa parole, « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا » Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez point d'autre que lui. Ainsi que sa parole, subhanahu wa ta'ala, « وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا » Et adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Et adore Allah en lui vouant un culte exclusif. Ainsi que dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. وَفِي آيَةٍ كَثِيرَ أَمَرَهُمُ اللَّهُ فِيهَا بِالْعِبَادَةِ. Et dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs l'adoration. Et cette adoration, qu'est-ce que c'est? Le Cheikh rahimahullah, il dit وَهِيَ تَوْحِيدُهُ جَلَّ وَعَلَى وَتَخْصِيصُهُ بِالْعِبَادَةِ مِنْ دُعَاءٍ وخوف ورجاء وتوكل ورهبة ورهبة وصلاة وصوم وغير ذلك. Il dit, cette adoration n'est autre que le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de le singulariser, de l'unifier dans ton adoration. Que cette adoration soit une invocation, que ce soit la peur, de l'espoir, de la confiance, du désir, de l'effroi, que ce soit ta prière, que ce soit ton jeûne ou toute autre adoration. Toutes tes adorations doivent être réservées à Allah subhanahu wa ta'ala. فهو المستحق للعبادة جل وعلا دون كل ما سواه. Il est donc celui qui est en droit d'être adoré. Il est celui qui est en droit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala, en dehors de tout autre que lui. Ensuite, le shaykh rahimahullah, il dit: وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ فِعْلُ الْأَوَامِرِ وَتَرْكُ النَّوَاهِي. Et rentre dans cela le fait que tu accomplisses tous les ordres qu'Allah t'a donnés et que tu délaisses tous ses interdits. فأداء الأوامر التي أمرك الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك النواهي التي نهاك الله عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم كل هذا داخل في العبادة. Il dit l'accomplissement des ordres qu'Allah t'a donné ainsi que son messager صلى الله عليه وسلم et le délaissement des interdits qu'Allah عز وجل t'a interdit ainsi que son messager صلى الله عليه وسلم, tout cela rentre dans l'adoration. وَهَذَا هُوَ الْإِسْلَامُ وَهُوَ الدِّينُ وَهُوَ الْإِيمَانُ. Il dit, ceci est l'islam, ceci est la religion, ceci est la foi, وَهُوَ الْهُدَى. Et ceci est la guidée. Ensuite, il dit, فَلَا تُصَلِّ إِلَّا لِلَّهِ. Tu ne dois prier que pour Allah عز وجل. وَلَا تَرْكَعْ إِلَّا لَهِ. ولا تذبح إلا له ولا تدعو إلا إياه ولا تتوكل إلا عليه إلى غير هذا من العبادات. Tu ne t'inclines que pour Allah عز وجل. Tu ne sacrifies que pour Allah عز وجل. Tu n'invoques qu'Allah عز وجل et tu ne places ta confiance qu'en Allah سبحانه وتعالى. Ainsi de suite pour toutes les adorations. Ainsi de suite pour toutes les autres adorations. Ensuite, il dit, Shaykh Ibn Baz, فَاللَّهُ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرُقْنَا هَمَلَا بَلْ أَمَرَنَا بِتَوْحِيدِهِ وَطَاعَتِهِ وَتَرْكِ مَعْصِيَتِهِ. Il dit, Allah Azza wa Jal, il nous a donc créés, il nous a accordé notre subsistance et il ne nous a pas laissés sans but. Au contraire, il nous a ordonné de l'unifier, de lui obéir et de délaisser sa désobéissance. Et de délaisser sa désobéissance. Ensuite, l'auteur dit, rahimahullah, bel arsala ilayna rasula, mais il nous a envoyé un messager. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit, wa arsala ilayna rasula, wa huwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a envoyé un messager qui n'est autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ بِذَلِكَ. Il a envoyé sur lui le Coran pour cela. لِنَسْتَقِيمَ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْهُدَى وَنَعْمَلْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْأَوَامِرِ وَنَنْتَهِي عَمَّا فِيهِ مِنَ النَّوَاهِ. Il a révélé le Coran sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin que l'on se tienne droit sur cette guidée, ainsi que pour que l'on accomplisse tous les ordres qui s'y trouvent et qu'on délaisse tous les interdits mentionnés dans le Coran. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est le dernier des prophètes et des messagers. Ja'a li yu'allima an-nasa dinahum fa huwa khatimul anbiya wa imamuhum wa afdaluhum. Il dit, il est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner aux gens la religion, pour enseigner aux gens leur religion. Il est donc le dernier des prophètes, leur guide et le meilleur d'entre eux. Il est le meilleur des prophètes, leur guide et le meilleur d'entre eux. Ensuite, l'auteur, il dit, rahimahullah, فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il dit donc, quiconque obéit au messager, sallallahu alayhi wa sallam, entrera au paradis. Et quiconque lui désobéit, entrera en enfer. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فمن اطاع هذا الرسول واستقام على دينه فله الجنة. Il dit quiconque obéit à ce messager et se tient droit sur sa religion obtiendra le paradis. ومن عصى هذا الرسول وحاد عن دينه فله النار. Et quiconque désobéit à ce messager et s'oppose à sa religion, alors il obtiendra le feu, wal'iyadu billah. Et ce, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, dans le verset que l'auteur a cité, Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. Nous vous avons envoyé un messager témoin contre vous, c'est-à-dire témoin de vos œuvres. Ay bi'amalikum. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Comme nous avions envoyé un messager à Pharaon, ce messager qui est Moussa alayhi salam. Fa'asa Pharaon ar-rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi au messager. Pharaon désobéit donc au messager, nous le saisissâmes donc d'un rude châtiment. Ay akhadna Pharaon akhdan wabila fi ad-dunya bil gharq wa fil akhirati bin nar. Il dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, c'est-à-dire que nous saisissâmes Pharaon durement ici-bas par la noyade, et dans l'au-delà par le feu de l'enfer, et dans l'au-delà par le feu de l'enfer. Et ceci est la sanction de toute personne qui s'oppose au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et les preuves dans le Coran et la Sunna sont très nombreuses concernant l'obligation d'obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on se contentera de citer ici une preuve du Coran et une preuve de la Sunna. Parmi les preuves les plus claires du Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fait rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui-là aura le châtiment avilissant. Et celui-là aura un châtiment avilissant. Voici donc ce verset très clair, prouvant ce que l'auteur, rahimahullah, a dit ici, dans cette première question. Concernant la sunna, le hadith d'Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, très connu, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. » Toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui refusent. « Qila wa man ya'ba ya Rasulallah. » Il lui a été dit « Mais qui pourrait refuser, ô messager d'Allah ?» Il dit Man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Quiconque m'obéit entrera au paradis. Et quiconque me désobéit a certes refusé. Et quiconque me désobéit a certes refusé, c'est-à-dire il a refusé d'entrer au paradis. Promis par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ceci est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane. Il nous est obligatoire d'apprendre cela, que on se doit d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est le premier point qui a été mentionné par le Cheikh rahimahullah. Ensuite, concernant la deuxième chose qu'il a mentionnée, il dit rahimahullah, الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Il dit rahimahullah, la deuxième chose, c'est-à-dire la deuxième chose qu'il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane d'apprendre et de mettre en pratique, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'agrée pas qu'on lui donne un quelconque associé dans son adoration, pas même un ange rapproché ni même un prophète envoyé. والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les mosquées sont réservées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذه المسألة الثانية إنما هي تحقيق للمسألة الأولى. Il dit cette deuxième question, ce deuxième point, ce n'est en réalité que la concrétisation de la première question. On a vu la première question, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il nous a apporté notre subsistance, il ne nous a pas laissé sans but, il nous a envoyé un messager pour qu'on lui obéisse. Ensuite, quelle est la concrétisation de cela? C'est qu'on adore Allah azza wa jal sans rien lui associer. Il dit ensuite, Shir ibn Baz, أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. C'est qu'Allah Azza wa Jal, il n'agrée pas qu'on lui donne un quelconque associé dans son adoration. كما أنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي خلقك وأعطاك النعم فهو سبحانه لا يرضى أن يشرك معه أحد من الخلق لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. Il dit de la même manière qu'Allah Azza wa Jal est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul à donner la vie et le seul à donner la mort. Ainsi, il t'a créé et il t'a accordé tous ses bienfaits. Alors il est, subhanahu wa ta'ala, le seul à mériter d'être adoré. Et il n'agrée pas qu'on lui associe quiconque dans son adoration. Pas même un prophète envoyé, ni même un ange rapproché, ni autre qu'eux. Pourquoi ? لأن العبادة حق الله وحده. Car l'adoration est un droit exclusif d'Allah عز وجل. كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Et ton Seigneur a décrété n'adorer personne en dehors de lui. N'adorer personne en dehors de lui. Et Allah عز وجل dit également إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est de toi seul que nous implorons l'aide. لأن الإشراك به هو أعظم الذنوب وقد جاه في الآية الكثيرة الأمر بإخلاص العبادة لله وحده. Car l'association à Allah Azza wa Jal, c'est le plus grand des péchés. Et il est venu dans le Coran de très nombreux versets ordonnant de vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal et l'adorer exclusivement. والنهي عن عبادة ما سواه. Et également dans ces versets se trouve l'interdiction d'adorer autre que lui. Et on a mentionné quelques-uns de ces versets précédemment. فتجمع بين أمرين. Tu dois donc réunir entre deux choses. تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي والمميت وتؤمن بأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. Tu dois croire qu'Allah Azza wa Jal est le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et celui qui donne la mort, et tu dois également croire qu'il est le seul à mériter l'adoration. Tu dois absolument réunir entre ces deux choses. Ces deux choses, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul à donner la vie et le seul à donner la mort, alors de la même manière, cela implique qu'il est le seul à mériter l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Que cette adoration soit un sacrifice, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne ou toute autre forme d'adoration, toutes sont réservées à Allah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal l'a dit, wa ilahukum ilahu wahid. Et votre divinité est une divinité unique. C'est-à-dire à lui seul, vous devez vouer l'adoration. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul fala tad'u ma'a Allah ahada. Et n'invoquez donc personne avec Allah. Ceci est donc la deuxième chose qu'il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane de connaître. Le fait qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas qu'on lui donne un quelconque associé, qui qu'il soit, que ce soit un ange, que ce soit un prophète, un djinn, une statue ou toute autre chose. L'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, il dit, rahimahullah, الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Il dit, la troisième chose qui est obligatoire à tout musulman et toute musulmane de connaître et de mettre en pratique, c'est que quiconque a obéi au messager. On a vu ça, c'est la première question, l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ووحد الله, a unifié Allah. Quiconque a obéi au messager et a unifié Allah. On voit qu'on retrouve les deux premiers points que le Cheikh, rahimahullah, il vient d'en mentionner. Donc quiconque a concrétisé cela, il ne lui est pas permis de s'allier à ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si ce sont ses plus proches parents. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit « وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَهِيَ مِنْ أَهَمِّ الْوَاجِبَاتِ أَنْ يَعْلَمَ كُلُّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ يُحِبَّهُمْ » Il dit ceci à la troisième question, c'est-à-dire qu'il est obligatoire à tout musulman et toute musulmane de connaître et de mettre en pratique. Et elle fait partie des plus importantes obligations. C'est que tout musulman et toute musulmane sache qu'il ne lui est pas permis de s'allier avec les associateurs ou de les aimer. فَكُلُّ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَحَّدَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى يُلْزِمُهُ أَنْ يُعَادِيَ الْكُفَّارَ وَيُبْغِدَهُمْ فِي اللَّهِ. Donc, toute personne qui a obéi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui a unifié Allah jalla wa ala, il lui est obligatoire d'avoir de l'animosité et de haïr en Allah les mécréants. Et il doit détester en Allah les mécréants. Wa la yajuzu lahu muwalatuhum wa mahabbatuhum. Et il ne lui est pas permis de s'allier à eux et de les aimer. Comme Allah azza wa jal il dit: La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah au jour dernier se lier d'amitié avec ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. C'est-à-dire La tajid ya Muhammad. Oh Muhammad, Allah azza wa jalla s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne trouveras pas un peuple qawman ahla imanun sadiq yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tu ne trouveras pas un peuple qui a une foi véridique, se lier d'amitié avec ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Wa qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Oh vous qui croyez, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, ils sont alliés les uns des autres, et quiconque les prend pour alliés fait alors partie d'eux, et certes Allah ne guide pas le peuple injuste et Allah azza wa jalla dit également concernant Ibrahim et ses suiveurs: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple, nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions entre nous et vous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit ensuite: فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَغْضَ وَالْعَدَاوَ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَمُوَدَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَحَبَّتِهِمْ. Il dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il est donc indispensable d'avoir de l'inimité et de la haine pour les ennemis d'Allah Azzawajal et d'avoir de l'affection et de l'amour pour les croyants. Il est obligatoire d'avoir de l'affection et de l'amour pour les croyants. Comme Allah Azzawajal le dit: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ. Et les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. وهكذا المؤمن يحب أولياء الله ويتعاون معهم على الخير. Ainsi est le croyant. Il aime les alliés d'Allah Azza wa Jal et il s'entraide avec eux dans le bien et il déteste les ennemis d'Allah Azza wa Jal. Il a de l'inimité envers eux في الله عز وجل. Et il a de l'inimité envers eux en Allah Azza wa Jal. Quant aux croyants, il les aime et s'allie à eux, même s'ils sont dans des endroits les plus lointains de la terre, car les croyants ne forment qu'un seul édifice. Ils ne forment qu'un seul édifice et s'entraident les uns les autres. Et s'entraident les uns les autres. Cette question donc, ce troisième point que le Cheikh rahimahullah il a abordé, concerne l'alliance et le désaveu. Elle concerne l'alliance et le désaveu. Et le fait d'avoir de l'animité envers les mécréants et de ne pas s'allier à eux. Mais ceci ne veut pas dire que le musulman doit couper court tous les ponts avec les mécréants et qu'il doit se détacher d'eux en toute chose. Ceci est une mauvaise compréhension. C'est pour cela que Shir al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dans son commentaire de l'Usul al-Thalatha, à ce moment-là, il a cité 9 points faisant exception à cela. Et ces 9 points qui sont des choses que certaines personnes pourraient penser qu'elles sont une forme d'alliance avec les mécréants. Mais ceci n'est pas le cas. Et on va les citer, ces 9 points, en résumé, inshallah ta'ala. Il dit la première chose, c'est que malgré notre inimité et notre animosité envers eux, il nous est obligatoire de les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire pour le musulman d'appeler les mécréants à Allah azawajal. Et il ne doit pas les délaisser et dire ce sont les ennemis d'Allah et nos ennemis. Au contraire, il lui est obligatoire de les appeler à Allah, la'allallaha nihadiyahum. Peut-être qu'Allah azawajal les guidera. Peut-être qu'Allah azawajal les guidera. Ensuite, il dit la deuxième chose, il n'y a pas d'interdiction concernant le fait de faire des pactes avec les mécréants, et ce en cas de besoin, si les musulmans ont besoin de cela. Et cela, comme il dit, revient à l'imam des musulmans, c'est-à-dire à leur gouverneur. La troisième chose qui ne rentre pas dans l'alliance avec les mécréants, c'est le fait de les rétribuer en retour de leur bienfaisance. Il n'y a rien qui t'empêche d'être bienfaisant envers un non-croyant, un mécréant, qui a été bienfaisant envers toi ou envers les musulmans. Il est permis de le rétribuer pour sa bienfaisance. Comme Allah Azza wa Jal le dit, « La yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin. » Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos maisons. Car Allah aime les équitables. La quatrième chose que Shir al-Fawzan hafidhahullah a mentionnée concerne la bienfaisance et la bonté envers les parents mécréants. L'enfant ou le musulman qui a des parents qui ne sont pas musulmans et qui sont mécréants, il se doit de faire preuve de bonté et de bienfaisance envers eux. Cependant, il ne doit pas leur obéir dans la mécréance ou dans le péché. Comme Allah Azza wa Jal dit, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas d'une façon convenable. Ainsi, les parents mécréants, ils ont un droit sur leur enfant musulman. Ils ont droit à ce que tu les rétribues pour l'éducation qu'ils t'ont donnée. Et parce que ils sont tes parents. Et le fait qu'ils soient tes parents, ils ont un droit envers toi. Et médite sur ce verset. Où Allah Azza wa Jal nous dit de ne pas obéir aux parents mécréants s'ils nous ordonnent de donner des associés à Allah. Malgré qu'ils nous ordonnent de donner des associés à Allah, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit après ? وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et reste avec eux ici-bas d'une façon convenable. C'est-à-dire que tu ne leur obéis pas dans ce qu'ils t'ordonnent comme association, mécréance ou péché. لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur, qui n'est autre qu'Allah Azza wa Jal. Ainsi, tu ne leur obéis pas, mais cela ne t'empêche pas d'être bon et d'entretenir les liens de parenté avec eux et de les rétribuer pour l'éducation qu'ils t'ont donnée. La cinquième chose que Shir al-Fawzan hafidhahullah a mentionnée, qui ne rentre pas dans l'alliance avec les mécréants, c'est les échanges commerciaux. et le fait de leur acheter des marchandises. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il avait des transactions avec les mécréants. وليس هذا من الموالاة والمحبة. Et ceci n'est pas une forme d'alliance, ni une forme d'amour. إنما هو تبادل مصالح. Ce n'est qu'un échange d'intérêts. Il est donc obligatoire de faire la différence entre ces choses et l'alliance aux mécréants, afin de ne pas faire entrer une chose dans l'alliance aux mécréants alors qu'elle n'en fait pas partie. Également, il est permis d'emprunter de l'argent aux mécréants, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emprunté à un juif. Il a pris de la nourriture chez un juif sans payer. Il a laissé en caution une armure qui est restée en caution chez ce juif jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a donc pas d'empêchement à cela, car ceci sont des affaires mondaines. Ce sont des affaires mondaines qui n'impliquent pas amour, ni amitié, ni compassion dans les cœurs. La sixième chose que Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah a mentionné, c'est le fait qu'Allah azawajal a permis aux musulmans d'épouser les femmes des gens du livre, qui sont les juifs et les chrétiens. Et ceci sous condition. Parmi les conditions, le fait qu'elles soient chastes. Également, Allah azawajal nous a autorisé de manger des sacrifices des gens du livre, des sacrifices des juifs et des chrétiens. Et ce, également, sous certaines conditions. Ce n'est pas toute viande tuée par un juif ou un chrétien que tu peux consommer. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions pour cela. Parmi les conditions, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, le fait qu'il prononce le nom d'Allah au moment de l'égorger. Également parmi les conditions, le fait qu'il l'égorge en faisant couler son sang. Et qu'il fasse couler son sang, donc, en l'égorgeant et non pas en la tapant ou en l'électrocutant ou autre. Certaines conditions doivent donc être respectées pour cela. Il doit égorger la bête et ne pas la tuer autrement. Et il doit mentionner le nom d'Allah azawajal à ce moment-là. Car Allah azawajal dit « وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ » Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. La septième chose que le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah a cité, c'est le fait de répondre aux invitations des mécréants lorsqu'ils nous invitent. Il n'y a pas de mal en cela. Il dit, il n'y a pas de mal à répondre à leur invitation et de manger de leur nourriture licite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. On doit faire attention à ce que le cheikh il a dit. Si, et de manger leur nourriture licite. C'est-à-dire que si tu es invité à un repas ou autre chez des mécréants et qu'il y a sur la table de l'alcool ou du porc ou d'autres choses illicites, alors dans ce cas-là, il ne t'est pas permis de répondre à cette invitation, ni de partager le repas avec eux, car il est interdit aux croyants et à la croyante de manger à une table sur laquelle se trouve du porc ou de l'alcool. Thaminan, la huitième chose que le Cheikh hafidahullah il a cité, c'est le fait d'être bienfaisant envers les voisins, même s'ils sont mécréants, car ils ont le droit du voisinage. En effet, tes voisins, même s'ils sont mécréants, ils ont surtout un droit. Et ce droit, c'est quoi? C'est le droit du voisinage. Et vous connaissez tous l'importance de ce droit en islam. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que tellement Jibril alayhi sallam lui recommandait d'être bienfaisant envers les voisins qu'il pensait qu'il lui allait lui accorder une part de l'héritage. Donc ce droit est immense. Et si ce droit était donné par les musulmans comme il se doit, de nombreux mécréants seraient certainement rentrés en islam, car ils auraient vu par cela la bonté et la beauté de cette religion qu'est l'islam. Donc on se doit d'être bienfaisant envers nos voisins parmi les mécréants. Et parmi cette forme de bienfaisance, la bienfaisance avec les voisins des mosquées, avec les voisins des mosquées en pays mécréant. On se doit de ne pas leur causer du tort et de ne pas faire des choses qui leur sont nuisibles ou leur causent du tort. Mais on doit être bienfaisant envers eux et leur montrer une bonne image de l'islam. Et peut-être que cela sera une cause de leur entrée en islam, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, la neuvième et dernière chose que le cheikh rahimahullah il a mentionné, c'est le fait qu'il n'est pas permis d'être injuste envers les mécréants. Il dit la yajouzu dhulmuhum. Il n'est pas permis d'être injuste envers eux. Qala Allah azza wa jal wa la yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Et que la haine pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Le musulman, il se doit donc d'être équitable et juste dans ses relations avec les mécréants et ne pas leur causer du tort ou d'injustice. Voilà donc quelques exemples de choses et de relations qu'ils sont permis d'avoir avec les mécréants que Cheikh Salah Al-Fawzan, hafidahullah, a mentionné dans son explication d'Al-Usul Al-Thalatha. Et nous les avons cités en résumé. Pour plus de détails, vous pouvez revenir directement à ce commentaire bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, il dit فَلَبُدَّ أَن نُفَرِّقَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ إِذَا سَمِعَ نُصُوصَ الْعَدَاوَةِ لِلْكُفَّارِ وَعَدَمْ مَحَبَّتِهِمْ قَدْ يَفْهَمُ أَنَّهُ لَا يَتَعَامَلُ مَعَهُمْ وَلَا يَتَّصِلْ بِهِمْ نِهَائِيًا وَأَنْ تَكُونَ مُقَاطَعَ نِهَائِيَةً لَا هَذَا مُحَدَّدٌ بِأَحْكَامِ وَبِحُدُودِ وَبِشُرُوطِ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَأْخُذَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il est donc indispensable, il dit, de faire la différence entre cela, ce qu'on vient de citer, et l'alliance avec les mécréants. Car il y a certaines personnes, lorsqu'ils écoutent les textes du Coran et de la Sunna concernant l'animosité que l'on doit avoir envers les mécréants et le fait de ne pas les aimer, ils comprennent qu'on ne doit avoir aucune relation en aucun cas avec eux. Il dit, cher Al-Fawzan, et ceci n'est pas le cas, car cela est limité par des règles et des conditions qui sont connues par les gens de science et qui sont tirées du livre d'Allah Azzawajal et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, pour terminer, on va lire la preuve que le shir Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah il a cité concernant cette troisième chose. Il dit donc, la troisième chose, c'est que quiconque obéit au messager et unifie Allah, il ne lui est pas permis de prendre pour allié quiconque s'oppose à Allah et à son messager, même s'il fait partie de ses plus proches parents. Et la preuve à ce sujet, والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Tu ne trouveras pas, c'est-à-dire, ô Muhammad, un peuple qui croit en Allah et au jour dernier se lier d'amitié avec quiconque s'oppose à Allah et à son messager, même si c'est leurs parents, leurs enfants, leurs frères ou les gens de leur tribu. Donc on voit que ce verset prouve très clairement ce que le Shir Rahimahullah a mentionné. Tu ne trouveras pas, donc, un peuple qui croit en Allah et au jour dernier se lier d'amitié avec ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Ce verset, il nous prouve que le fait d'aimer les mécréants s'oppose à la foi en Allah et au jour dernier. Cela s'oppose à la foi en Allah et au jour dernier. Soit cela s'oppose avec la base de la foi, soit cela s'oppose avec sa perfection. S'il les aime, tout en soutenant leur idéologie et en soutenant leur mécréance, alors ceci le fait sortir de l'islam et s'oppose à la base de la foi. Tandis que s'il les aime par passion et non pas pour soutenir leur religion, alors ceci est considéré comme affaiblissant la foi et considéré comme de la perversion, mais ne le fait pas sortir de l'islam. Mais cela ne le fait pas sortir de l'islam. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. Ceux-là sont ceux à qui il a écrit la foi dans leur cœur, et il les a renforcés d'une force venant de lui. Il a écrit la foi dans leur cœur, c'est-à-dire qu'il les a raffermis. Allah Azza wa Jal, de par cela, de par leur désaveu des mécréants, même parmi leurs proches, il leur a affermi la foi dans leur cœur. Et il les a soutenus. Il leur a accordé une force venant de lui. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Et il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. C'est-à-dire qu'ils ne sortiront pas de ces jardins. Ils n'en sortiront plus et ils seront éternellement. Ils ne craindront ni mort, ni ennemi, ni toute autre chose. Ils n'auront pas peur que quelqu'un les fasse sortir de ces jardins ou qu'il les expulse de ces jardins. Contrairement à la situation du croyant dans cette dunya. L'homme, dans cette dunya, il est possible qu'il se trouve dans des grands châteaux, mais il n'est pas à l'abri de la mort. Il sortira ainsi de ses châteaux pour aller sous terre. Également, il n'est pas à l'abri que des ennemis prennent le dessus sur lui et le fassent sortir de ses châteaux et de son royaume. Ainsi, l'homme, il est dans cette vie d'ici-bas, toujours dans la peur, alors que dans l'au-delà, il sera dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, sans craindre de sortir de ces jardins. Et ceci est la récompense des croyants. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit « Radiallahu anhum wa radu'an » Allah les agrée et il l'agrée. Pourquoi ? Car ils se sont opposés aux ennemis d'Allah Azza wa Jal, même parmi leurs plus proches parents. Lorsque ils ont provoqué la colère de leurs proches parmi les mécréants et qu'ils se sont opposés à eux, et qu'ils ont eu de l'inimité envers eux, Allah Azza wa Jal, en récompense, leur a remplacé cela par son agrément. Allah Azza wa Jal, il leur a accordé son agrément. Ils ont provoqué la colère de leurs proches parmi les mécréants, mais Allah Azza wa Jal les a récompensés en leur accordant son agrément. Ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Ceux-là sont le parti d'Allah, et n'est-ce pas que le parti d'Allah sont ceux qui réussissent. Le parti d'Allah Azza wa Jal, tandis que les kofars sont eux dans le parti du diable, comme Allah Azza wa Jal dit Ulaika hizbu shaytan. Ceux-là sont le parti du diable, tandis qu'à ceux que l'on vient de citer précédemment, ils font partie du parti d'Allah Azza wa Jal. Ils font partie du groupe d'Allah Azza wa Jal. Et ils font partie des muflihoun, ceux qui obtiennent le succès ici-bas et dans l'au-delà, bi'idhnillahi Azza wa Jal. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المفلحين في الدنيا والآخرة ونكتفي بهذا اليوم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين